Alors, nous venons de chanter un cantique merveilleux, plein de confiance, plein de confiance. Alors voilà, est-ce que c'est votre situation? Est-ce que vous pouvez dire, comme l'apôtre Paul dans les Corinthiens, je cherchais ce verset quand on a chanté ce cantique, au verset, vous pouvez le lire avec moi, remarquez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Regardez ce verset s'il est beau. Je voudrais ce soir vous parler de la confiance en Dieu. Est-ce que vous pouvez dire oui, ce que je vais lire, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Hein, celui qui met en Jésus, celui qui est plein de confiance. Vous avez votre Bible ouverte? Bible, je parle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Nous sommes, vous l'avez votre Bible? Plein de confiance. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Le témoignage que Paul pouvait donner, nous sommes pleins de confiance. C'est une chose d'avoir un peu de confiance, une petite confiance, une moitié confiance, et plein de confiance. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je suis plein de confiance. Ça veut dire que de ma vie déborde cette confiance. C'est plus fort que moi. C'est quelque chose qui me remplit. Je suis plein. Vous avez vu quand quelqu'un est plein de vin, comment il est? Comment il est quand quelqu'un est plein? On le dit, il est plein. Comment il est? Comment? Oui, quand quelqu'un est ivre, il y a des gens qui sont timides, mais parce qu'ils sont pleins de vin, eh bien, quelqu'un de timide, tout d'un coup, va s'extérioriser. Oui, parce qu'il est rempli de quelque chose qui le domine. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidé à partager ce qu'on va partager avec vous ce soir. C'est dans le psaume 9, on peut le lire, parce que ça peut vous aider dans votre prochain culte. Dans votre prochain culte personnel, dans un de vos prochains cultes, au chapitre 9 et au verset 11, j'ai compris ce que voulait dire ce verset. Et ce soir, si vous comprenez ce verset, le Seigneur vous aidera. Parce que c'est ce qu'on veut. Chanter ces beaux cantiques, celui qui met en Jésus, on a une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi je serai plus que vainqueur. C'est un beau programme ça. Est-ce qu'il fallait le chanter ce cantique? Psaume 9, verset 11. Regardez bien ce verset, je voudrais que vous le compreniez, je ne sais pas comment vous le comprenez. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Comment vous le comprenez ce verset? Vous le comprenez comment? Ceux qui vont à l'église, eh bien, ils prient. C'est ça que ça veut dire? Non. Ça veut dire que quand vous connaissez Dieu, quand vous le connaissez, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous confier en lui. Est-ce que vous écoutez bien ce que je dis? Quand vous apprenez à connaître Dieu, quand on chante car Dieu est un Dieu puissant, est-ce que c'est un chant? Est-ce que c'est de la doctrine? Est-ce que c'est de la théologie? Est-ce que c'est dans la tête? Ou est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est puissant? Tout puissant. Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous confier en lui. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup étonné. Quand Jean-Baptiste présente le ministère de Jésus, à un moment donné, il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous, en parlant de Jésus, que vous ne connaissez pas. Jésus était au milieu d'eux, mais ils ne le connaissaient pas. D'ailleurs, vous avez vu comment ils l'ont traité. Mais au fait, est-ce que Jésus est au milieu de nous? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est au milieu de nous? Vous le sentez? Vous le sentez qu'il est au milieu de nous? Tu le sens, toi, Michael, que Jésus? C'est important de le sentir? Moi, franchement, ça m'est sûrement égal. Dimanche, dans l'église où j'étais, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, monsieur Gau, vous avez senti la présence de Dieu? Je dis, c'est grave, je sais qu'il est là. Ce n'est pas la peine de le sentir. Jésus a promis que lorsque deux de ses enfants seraient assemblés, il serait là. Pour le sentir. Voilà, ça vous montre combien les gens, ce n'est pas la foi ça. Tant mieux si parfois sa présence, on la ressent, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important qu'on la ressente. Il est au milieu de nous. Et le problème, c'est que les gens ne croient pas ce qui est écrit. L'autre jour, il y a une dame qui m'a téléphoné pendant une heure. Elle me dit, monsieur Gauche, je vous écoute sur Internet, vos prédications me font du bien, patati, patata, tout ça. Et au bout d'un moment, elle me parle, elle me dit, j'ai prié pour qu'on me donne un conseil. J'ai dit, mais vous allez écouter mon conseil? Elle me dit, mais monsieur Gauche, je vous fais confiance. J'ai dit, c'est quand même dommage. Que vous fassiez confiance à un pécheur, parce que même si je suis pasteur, je suis d'abord un pécheur sauvé par grâce. Vous faites confiance à un pécheur et vous n'êtes pas capable de faire confiance à Dieu. Elle m'a dit, je le reconnais. Vous vous rendez compte, elle me faisait confiance à moi et elle ne fait pas confiance à Dieu. J'ai dit, vous ne connaissez pas Dieu. Si vous allez à l'église, vous priez, vous lisez votre Bible, mais vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous pourriez lui faire confiance. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Et tout ce qui est écrit, c'est fait pour qu'on puisse nous aussi dire un jour, je suis plein de confiance. Parce que ce cantique, vous pouvez le mettre s'il vous plaît? Ce cantique, c'est quand même un drôle de cantique. Vous vous rendez compte? C'est biblique. Si vous venez pour les premières fois, sachez que, en principe, presque tous les cantiques que l'on chante sont des textes bibliques qui sont bien sûr mis en mélodie. Le refrain, s'il vous plaît. Vous voyez, montez-le. Vous voyez? Par la foi, mon rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur, est-ce que c'est une expression biblique? Oui? C'est Paul qui dit, nous serons plus que vainqueurs. Là, ce n'est pas une petite victoire de temps en temps. Il y a des chrétiens, ils vont bien tous les 3 mois, ils font une petite expérience. Voilà, ils sont contents. Voilà, mais le lendemain, vous les voyez, ils sont complètement en dessous des chaussettes. Mes frères et sœurs, un chrétien, il doit apprendre à vivre ce qu'il chante. Par la foi, je marcherai. Ce que Dieu a dit, je le croirai. Vous voyez, il y a le nombre de chrétiens qui basent leur culte sur le fait qu'ils sentent ou ils ne ressentent pas la présence de Dieu. Moi, même si vous saviez, moi, combien ça m'est égal. Parce que je sais qu'il est là. Et là, on ne devrait pas douter un instant. C'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas bien spirituellement. Alors, ils chantent des cantiques, ils espèrent que c'est vrai. Dernièrement, j'étais à l'enterrement de mon oncle, et comme le gars qui organisait c'était dans une église catholique, mais comme le gars qui organisait l'enterrement me connaissait, il m'a dit, est-ce que vous ne voulez pas lire un psaume? Puisque vous êtes pasteur, ça serait bien quand même, vous êtes de la famille. Est-ce que vous voulez lire un psaume? Alors j'ai lu un psaume, je l'ai commenté 30 secondes. Et à la fin, après la cérémonie, il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit, monsieur le pasteur, vous avez parlé d'espérance, mais quand vous parlez d'espérance, vous espérez que c'est vrai? Ou vraiment vous croyez que c'est vrai? J'ai dit, ma pauvre femme, vous n'êtes pas au Seigneur. J'ai dit, quand je parle d'espérance, j'espère pas que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et j'ai dit, vous voyez tout ce qu'on voyait là, il y avait un paysage, tout ça. J'ai dit, c'est vrai ce qu'on voyait là. Mais ce que je pense, ce que je crois, c'est plus vrai que ce que je vois. Ah, elle me dit, vous avez de la chance. J'ai dit, vous lisez la Bible? Ah non, je ne la lis pas. J'ai dit, vous ferez mieux de commencer à la lire. Parce que Dieu est capable de vous remplir d'espérance. Nous sommes plein de confiance. Et c'est Pierre, et c'est Jean qui le dit. Lisez-le avec moi. Alors ce verset, méditez-le ce texte. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Si vous n'arrivez pas à faire confiance, si vous avez confiance que quand vous priez, si vous avez confiance que quand vous êtes avec des chrétiens qui ont la foi. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont contents quand ils sont avec d'autres chrétiens. Ah, on s'est fait du bien. Est-ce que c'est bien d'être avec d'autres chrétiens, de se faire du bien? Bien sûr, on a besoin d'être avec d'autres chrétiens. Ça fait du bien d'être ensemble. Dieu a créé la communion fraternelle. C'est un des piliers de l'Église primitive. Il nous a dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. On a besoin. Quand on est chrétien, on aime se retrouver avec des chrétiens. Vous vous préférez avec des chrétiens ou avec des païens? Hein? Il y a des chrétiens qui se préfèrent avec des païens. Je m'interroge. Hein? Je m'interroge. Par contre, c'est bien d'aimer les païens. C'est bien de... On a prié tout à l'heure pour que Dieu nous conduise par rapport à des voisins, des gens que nous côtoyons. Si pendant ces vacances de Noël, on pouvait leur parler, c'est bien quand même. Mais je crois qu'un chrétien, il aime la communion fraternelle. Mais Dieu peut permettre que pendant la semaine, vous ne soyez pas en contact avec des chrétiens. Eh bien, est-ce que votre foi va diminuer parce que vous allez vous retrouver qu'avec des païens? Parce que vous allez vous retrouver qu'avec des gens sans Dieu? Non, on doit pouvoir arriver à ce stade où au bout de quelques temps, de marche avec Dieu, on peut aussi dire « je suis plein de confiance ». C'est quelque chose qui vous remplit, ça vient de Dieu, ça vient de la grâce, ça vient de la foi. C'est Dieu qui vous remplit, comme un timide, tout d'un coup, s'extériorise et va se mettre à chanter parce qu'il a bu 5 ou 6 bières, eh bien, il est rempli de quelque chose. C'est pour ça que Dieu prend ce texte, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que le Saint-Esprit ne vous remplit pas? Bien sûr, s'il y a un obstacle, s'il y a... Hier, vraiment, je méditais ce texte, quand il est demandé aux hommes, « Marie, honorez vos femmes. » C'est écrit? Est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit? « Marie, honorez vos femmes comme devant hériter de la grâce de la vie. » Qu'il en soit ainsi, aidez-moi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça fait réfléchir quand même. Honorez vos femmes. Je pense que c'est valable dans l'autre sens aussi, que les femmes doivent aussi honorer leur mari. Mais vous honorez, vous, il y a des gens que vous honorez, en fait. Est-ce qu'il y a des gens que vous honorez? Qui c'est que vous honorez? On honore qui? Comment? Voilà, ceux qu'on aime, ceux qu'on respecte. On honore ceux qui ont de l'importance. C'est pas vrai? Quand quelqu'un est important à nos yeux, on l'honore. Et Dieu nous demande d'honorer notre épouse. Tout ça dans un but bien précis, que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire que d'être un hypocrite. Parce que l'hypocrisie, ça c'est quelque chose qui ferme la porte. Mais je ne sais pas si nous nous rendons compte, ce que nous voulons, nous, c'est que nos prières soient exaucées. Ce que nous voulons, c'est que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Et il faut quand même être sérieux, parce que cette confiance est le résultat de toutes les instructions de Dieu que nous prenons au sérieux. Et regardez avec moi dans 1 Jean au chapitre 5, cette victoire, elle est là. Et je crois qu'on est dans un monde où si les chrétiens qui ne veilleront pas, ne seront pas dans la victoire. Combien de gens vont rétrograder? Combien de gens rétrogradent? À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour moi là la preuve que vous voulez persévérer dans les voies du Seigneur. Regardez dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 1er. Un texte où il nous est dit que la foi triomphe. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Bon, c'est bon signe. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Vous voyez, la confiance, elle vient, c'est une mise en pratique. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, les commandements de Dieu, comment vous en parlez des commandements de Dieu? Il faut aimer son prochain. Il faut aimer ses ennemis. Il faut prier pour ses ennemis. Non mais c'est insurmontable, me disait une personne la semaine dernière. C'est insurmontable, monsieur Gault, tout ce que vous me dites. J'ai dit non, ce qui est insurmontable, c'est de désobéir. Parce que quand on obéit, je peux vous dire, c'est une grâce. Et les gens ne comprennent pas que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et le diable, c'est sûr qu'il fera feu de tout bois pour essayer de nous faire croire que ce n'est pas possible. Moi, je vous dis ce que la Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors, verset 4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous interprétez ce verset, mais c'est un verset qui mérite d'être expliqué. Ce qui est né de Dieu, vous voyez, il ne faut pas l'entendre dire « Ah, c'est bien, de toute façon, c'est la Bible, donc je suis d'accord. » Non. Ce qui est né de Dieu, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de sérieux. Dieu l'a dit, ça vient à moi, ça demeure à moi, je le médite, je le rumine, j'y reviens. C'est pour ça que je vous disais, mais psaume 9, verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Est-ce que ça vous intéresse de connaître les noms du Seigneur ou est-ce que ça vous intéresse juste de chanter « Car Dieu est un Dieu puissant. » Ah, il est un Dieu puissant, ça se dit comment? En hébreu, El Shaddai. Voilà, moi je peux vous réciter toute la liste des noms, El Shaddai. Ici, Jéhovah Jireh, etc. À quoi ça sert qu'on fasse une étude sur les noms de Dieu si on n'est pas capable de croire que vraiment Dieu pourvoit? Est-ce que vraiment Dieu s'appelle Jéhovah Jireh? Est-ce que pour vous, Dieu s'appelle Jéhovah Jireh? Est-ce que vous croyez que Dieu peut pourvoir? Si vous êtes au chômage, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner un travail? Est-ce que vous le croyez vraiment que Dieu peut vous donner un travail? Si vous êtes malade, est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir? Il s'appelle Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui guérit. Ceux qui connaissent ton nom se confient
en lui. C'est impossible. Et si vous êtes dans la crainte, si vous avez peur, c'est que vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez avec votre cerveau. Vous pouvez dire, oui, je sais, Jéhovah Nissi, c'est dans tel texte, c'est dans Exode chapitre 17, Jéhovah Jireh, c'est Genèse chapitre 22. Moi, je peux tout, je sais tout par cœur. Mais ça ne m'intéresse pas trop, le par cœur. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit dans mon âme. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voulez être prêt quand Jésus reviendra? Vous voulez être prêt peut-être à demain pour témoigner à une personne qui est désespérée? Combien de fois j'ai dit, oh mais moi je n'ai pas témoigné, j'étais autant désespéré que la personne à qui je devais parler. C'est dommage quand même. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Vous ne savez pas demain sur qui Dieu va vous mettre. Vous ne savez pas sur le chemin. Oui ou non? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'avoir une foi vivante? Nous sommes pleins de confiance. Et il y a des commandements qui nous permettent d'avoir une véritable confiance. Vous savez, plus vous connaîtrez Dieu, plus vous serez obligé de lui faire confiance. Vous ne pourrez pas faire autrement. Vous saurez qu'il est ce Dieu qui pourvoit. Alors il y a des textes, vous voyez, les commandements ne sont pas pénibles. Alors on pourrait prendre quelques versets. Je pense à ce verset dans la première épître aux Thessaloniciens, qui nous permet de vivre dans cette confiance. Parce que vous savez, c'est facile d'avoir la foi le dimanche matin ou le mardi soir. Mais avoir la foi le matin à 6h, quand le réveil sonne. Il sonne votre réveil à 6h le matin pour aller au travail? Non? Ben oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 15, 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si vous avez un problème avec les commandements de Dieu, c'est que vous êtes tombé dans les ruses du diable. Tous les commandements de Dieu sont bons. Tous. Tous. Alors regardez, vous allez me dire, est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui ça? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce, vous y êtes? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toute chose. En toute chose. Est-ce que vous rendez grâce lorsque vous regardez les informations ou est-ce que ça vous déprime? Quand vous regardez ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais des fois voir les chrétiens devant les infos. J'aimerais des fois. Je serais curieux d'être une mouche et de voir comment les chrétiens se comportent lorsqu'ils voient les informations. Vous avez vu certains choix de nos ministres, etc. Ça fait peine. Mais vous savez tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça va produire? On s'en va de plus en plus vers ce gouvernement mondial. On peut que s'attendre à ça. Donc c'est la preuve que les prophéties sont en train de se mettre en place. Et on devrait, Seigneur, voilà, je te prie pour ces gens qui sont affligés. Je te prie pour tous ces gens qui sont aveuglés, pour notre gouvernement qui a besoin qu'on prie pour lui. Vous croyez que notre gouvernement a besoin qu'on prie pour lui? Moi, il y a des gens, je me fais du souci pour eux. L'autre fois, ils ont fêté l'anniversaire de l'avortement, 40 ans de la loi pour l'avortement. Mais moi, j'ai dit, cette pauvre femme, quand elle va se passer devant Dieu? Moi, je prie pour Simone Veil. Je vous assure, je prie souvent pour elle. Parce que le jour où elle va passer devant Dieu, je pense qu'elle va avoir des problèmes. Alors, il ne faut pas que ça nous amène à juger. Il ne faut pas que ça nous amène à condamner. Il faut que ça nous amène à prier. À prier ou à rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as épargné. Je te rends grâce parce que, voilà, aujourd'hui, je te bénis. On a pu venir à la réunion ce soir. Peut-être que vous avez tourné un moment dans le quartier pour vous garer. Vous avez tourné un peu pour vous garer? Non, c'est bien. Mais est-ce que c'est une grâce d'avoir une église? Pour combien de choses on peut rendre grâce? Pour combien de choses? Aujourd'hui, combien de bienfaits Dieu vous a-t-il accordé? Est-ce que d'avoir des yeux, c'est une grâce? Tout est grâce. Et mes frères et sœurs, combien de chrétiens sont dans la défaite, sont découragés, parce qu'ils font le jeu du diable? Et si Dieu dit que les commandements ne sont pas pénibles, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir marcher, c'est une grâce. Vous ne connaissez pas des gens qui sont paralysés? Moi, j'ai discuté avec une infirmière là, la semaine dernière. Elle travaille justement dans un service où il y a des gens qui ont fait des AVC. Bon, ça me dit quelque chose, vous voyez? Et elle me dit qu'il y a plein de gens qui sont handicapés. Et elle est là, les massages, les machins, les traitements, pour essayer qu'ils remarchent normalement. Moi, je crois que c'est une grâce de pouvoir marcher normalement. Vous croyez que c'est une grâce? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour vos deux jambes qui marchent normalement? Quand est-ce que c'est la dernière fois? Alors, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour le pain? Ou alors vous l'avez fait, mais monsieur Gros, je rends grâce tous les jours à table pour le repas, mais qu'est-ce que vous me racontez? D'accord. Est-ce que vraiment on le fait avec son cœur? Parce que je crois que quand on le fait avec son cœur, eh bien, le Seigneur se réjouit. Il est écrit dans, on va le lire cet autre verset. C'est important qu'on le lise. Dans le prophète Nahum, c'est un petit prophète. Alors, c'est les petits prophètes, vous savez, facile à trouver ça. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Vous les connaissez? Michée, Nahum, c'est comme ça que je les trouve. Je les connais aussi, tac, tac, tac. Dans le prophète Nahum, au chapitre 9, au chapitre 1, Madame Chapeau, doucement, ne soyez pas trop sévère avec moi. Je vous laisserai la place un jour, vous verrez. Nahum, chapitre 1, verset 7. Regardez bien la fin de ce verset. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît, je ne sais pas si ce verset vous interpelle, mais Dieu, il connaît ceux qui se confient en lui. C'est une chose que nous nous confions en lui, mais laissez-moi vous dire que quand Dieu regarde ses enfants, il connaît vraiment ceux qui se confient en lui. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction qui repose sur celui qui le fait pleinement confiance. On l'a chanté, mais vous savez, des cantiques comme ça. Je vous encourage, je ne sais pas si vous le faites, moi des fois je prends le recueil de cantiques et je dis, tiens, on a chanté ça, mais je vais le relire. Je vais le relire, ce qu'on a chanté. Bon, en tant que pasteur, je trouve que c'est bien de le faire. Mais est-ce que ce n'est pas bon pour les chrétiens aussi de reprendre un cantique et de dire, tiens, mais qu'est-ce que tu as chanté? Car Dieu est un Dieu puissant. Je vais le relire, ce que j'ai chanté. Vous savez, quand on le lit, c'est beaucoup plus facile de, sans la musique, sans la mélodie, etc., de dire, mais si j'ai chanté ça. Le dernier cantique qu'on a chanté, si vous remettez à le lire, je dis, mais je vais chanter ça, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Dieu, il connaît. Dieu, il vous connaît. Moi, je ne sais pas si vraiment vous faites confiance à Dieu. Je ne sais pas quand on chante celui qui met en Jésus, voilà, avec ferveur, avec brio, etc. Mais il n'y a que Dieu qui sait si vraiment vous le vivez. Mais moi, je veux lui faire confiance. Et ça commence avec cette affaire de commandement, qui dit, voilà, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Rendez continuellement grâce. Eh bien, moi, je crois que... Moi, dès le matin, je vous le dis, parce que bon, je suis votre pasteur, mais dès que je me lève, je dis merci au Seigneur. C'est un réflexe. Je dis merci, Seigneur. Des fois, je regarde le réveil en coin, mais je dis, ça fait rien. Seigneur, merci. Merci. Tout est grâce. Vous en êtes conscient? D'avoir dormi dans un lit avec une couverture. Oh, monsieur Gros, la couverture, tout le monde a une couverture. Vous êtes sûr que tout le monde a une couverture sur la terre? Si vous me croyez pas, tapez sur Internet, mort de froid, vous allez voir combien d'enfants meurent de froid chaque nuit dans le monde. Et vous allez dire qu'une couverture, eh bien, c'est une bénédiction. Et souvent, on a attristé le Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas su remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donnait. Et si Dieu dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, il ne faut pas s'étonner que vous soyez déprimé, que vous soyez malheureux, que le Saint-Esprit soit attristé en vous, parce que vous avez oublié de remercier Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et Dieu le voit. Et quand vous le faites, comme Dieu connaît, eh bien, ça le réjouit. Vous savez, on se dit, mais comment réjouir le Saint-Esprit? C'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qui l'attristent. L'amertume, c'est écrit que l'amertume, que toute amertume, tout ça disparaît. Si j'ai de l'amertume parce qu'il y a un gars qui m'a fait une crasse au travail, mais je ne comprends pas, on m'a fait une crasse, pourtant je lui ai rendu service. Mais oui, mais c'est comme ça. Seigneur, bénis-le. Bénis-le ce gars. Il m'a fait une crasse, et puisque tu nous demandes de bénir ceux qui nous maudissent, eh bien, je le bénis. Un jour, Dieu utilisera cette personne pour vous bénir. Certains, vous l'avez certainement vécu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pour ça que Jésus dit, mais recevez mes instructions. Les gens, ils écoutent, ils sont capables même d'analyser une bonne prédication. Ils disent, oh, c'était bien, ça m'a fait du bien, c'était intéressant. Vous savez, on a une capacité extraordinaire à voir certaines choses, puisque Jésus dit qu'on peut voir la paille qui est dans l'œil du frangin. Il l'a dit, le Seigneur. Et qu'on n'est pas capable de voir la poutre dans son propre œil. C'est-à-dire qu'on est capable de discerner des choses, c'est les gens, et ne pas être capable de voir nos gros problèmes. Et le seul moyen d'y arriver, eh bien, c'est de dire, mais Seigneur, voilà, ceux qui te connaissent, ils se confient en toi. Est-ce que vraiment j'ai confiance en toi? Vous devez vous poser la question. Parce qu'en plus, les temps dans lesquels nous vivons font qu'on peut avoir plein d'assurance. Le mot plein, j'ai préparé une étude là-dessus, je dois l'avoir par là. Toutes les fois où il est parlé d'être plein. Plein d'assurance, plein de paix, plein de joie, plein de... Il y en a plein de trucs. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Eh bien, ça dépend uniquement de cette foi. C'est-à-dire, Dieu l'a dit, je le crois. Vous savez, c'est ça la foi. Dieu l'a dit, je le crois. Dieu l'a dit, je le fais. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous avez la foi. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous avez la foi. La foi, c'est obéir à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mais venez à moi et recevez mes instructions. Les recevoir. Alors, on va pas. Il n'y a que l'embarras du choix, mais ça, faites-le. Vous pouvez prendre votre Bible avec un surligneur. Eh bien, tiens, je vais surligner toutes les promesses. Je vais surligner tous les commandements. Moi, j'ai une Bible, pas celle-là, mais une autre, où je l'ai fait ça. Et je vous avoue que quand vous le faites, et que chaque fois, je sais que chaque fois que c'est du bleu, c'est un commandement. Et je vous assure que... Ou une promesse. On va lire une promesse que j'ai jamais lue. Avez-vous? Dans l'évangile de... Je ne sais plus où c'est ça. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6... C'est là que vous devez être honnête, parce que c'est comme ça qu'on change. Vous savez, on change, c'est pas parce qu'il y a un problème que ça va pas. Le problème, ça va pas quand on le règle pas. Mais si on dit, mais ce soir, je veux le régler, cette affaire. Matthieu chapitre 6, Jésus nous demande de ne nous inquiéter de rien. C'est pas beau, ça? Ne vous inquiétez de rien. Pas pour la vie, etc. Au verset 34, il donne un commandement... Et une promesse, et un enseignement, vous voyez, dans le même verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Non, le lendemain, qui c'est qui a peur pour le lendemain? Qui c'est qui a peur pour le lendemain? Est-ce que vous avez peur? Vous qui allez, mesdames, vous qui allez être peut-être enceinte, qui aurez un enfant un jour, est-ce que vous avez peur du lendemain? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur du lendemain? Parce que tout est fait, quand vous regardez les infos, tout est fait pour vous mettre à l'aise. Tout est fait pour qu'on ait peur. Tout. Et moi, j'ai une fois, une sœur me disait, « Oh, monsieur Gauche, je suis fatigué, je suis découragé. J'ouvre, chaque fois que je regarde les informations, ça me décourage. » Et bien, je dis, « Mais ne les regardez pas. » Je ne sais pas, moi, ça me découragerait, je ne les regarderais pas. Oui ou non? Non, mais... Sérieusement, je crois que le Seigneur nous a donné un cœur, mais il nous a donné aussi un cerveau. Pour réfléchir. Moi, les informations, ça me découragerait, je ne les regarderai pas. Et à la sœur, je dis, mais vous ferez mieux de regarder les promesses, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vous savez, quand je vois des promesses comme ça, je pense toujours à l'œuvre de Jésus au calvaire. Vous savez, Jésus sur la croix, tout accompli. On n'aurait pas la Bible. Imaginez, on n'a pas la Bible. On n'a pas la Bible. On sait juste que Jésus est mort sur la croix et que tout ça, ça nous bouleverse, bien sûr. Ça serait déjà extraordinaire, oui ou non? Est-ce que d'en avoir qu'une connaissance profonde dans notre cœur de la mort de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ, imaginez, ou alors qu'on ait une petite Bible avec 10 pages précises sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Ça serait déjà énorme, non? Et Dieu a pris le soin de nous laisser des centaines et des milliers de promesses pour que sur la terre, eh bien, on puisse ne pas se débattre. On en parlait tout à l'heure avec les pasteurs en formation. Par exemple, quand il dit « ne combattez pas contre la chair et le sang ». Vous voyez, pour un pasteur, c'est énorme d'avoir ce verset. Parce que vous savez, la vie, elle est tellement compliquée qu'on est tout le temps en train de combattre contre la chair et le sang. Et il ne faut pas. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Ça, c'est une instruction extraordinaire pour la formation des serviteurs de Dieu. Mais quand le Seigneur, en plus de la croix, nous dit, mais ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en vrac. Tout le temps. Toute leur vie, ça va. Oh, il faut le faire aller, monsieur Gou. Il faut le faire aller. Et puis après, en plus, vous les entendez, Seigneur, je te loue, je te remercie, tout ça. Et puis dans la rue, ils sont complètement découragés. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. En plus, il dit que c'est lui qui pourvoira. Vous le croyez qu'il pourvoira ? Franchement, vous le croyez que Dieu pourvoira ? Est-ce que vous le croyez vraiment ? Si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Et vous devez dire, mais Seigneur, apprends-moi à te connaître. Le lendemain aura soin de lui-même. Alors je voudrais qu'on termine avec ce texte qui nous prouve comment Dieu va bénir. Vous savez, quand on a lu dans le prophète Nahum, au chapitre 1er, Dieu connaît ce qui se confie en lui. Il connaît. Donc dans Jérémie, au chapitre 17, il y a ce fameux texte que j'aime beaucoup. Je le relisais encore hier soir, ce matin. C'est un texte merveilleux où il nous est parlé de ceux qui sont maudits et de ceux qui sont bénis. Alors je ne pense pas devoir vous poser la question dans quelle liste voulez-vous être. Non ? Est-ce qu'il faut poser la question ? Non, je ne pense pas. Mais quand même, c'est écrit, et c'est écrit plein de fois. Et je vous ferai remarquer qu'il n'est jamais écrit une seule fois « Heureux celui qui prie ». Heureux celui qui va à l'église. Il y a un verset sur le fait de servir Dieu dans la maison du Seigneur. Heureux ceux qui habitent ta maison. Mais par contre, je ne sais pas combien de fois il est parlé de la bénédiction sur ceux qui se confient en lui. Il y a plein de gens qui prient, mais ils prient pour prier. Comme les hypocrites. Ne priez pas comme les hypocrites. Regardez Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Alors, tiens, je vais vous poser une question avant de conclure. Quelqu'un pourrait dire, mais monsieur Gau, dans la Bible, il y a écrit des centaines de fois, ainsi parle l'Éternel. Dans la Bible, ben on se doute bien que si c'est dans la Bible, ben c'est que ça vient de Dieu. Alors, pourquoi il y a tant de fois écrit, ainsi parle l'Éternel ? Parce que c'est évident, oui ou non ? À partir du moment où c'est écrit, ça vient de Dieu. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu, ça vient de qui ? Ça vient de Dieu. Et je crois que Dieu a voulu, dans son amour et sa tendresse et sa patience, mettre en boucle cette expression, ainsi parle l'Éternel, pour que l'on comprenne bien que c'est inébranlable. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Quand il est écrit, ainsi parle l'Éternel, ça ne se discute pas. Dieu l'a dit. C'est important. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Oui, Dieu est bon, croyez-moi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, parce que quand on ne se confie pas en Dieu, ben on finit par s'en détourner. Il ne faut pas s'étonner s'il y a tant de rétrogrades. Il ne faut pas s'étonner. Il est comme misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le tableau, c'est pas joyeux. Hein. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas confiance. Vous pouvez prier une heure par jour et ne pas lui faire confiance. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je lisais hier dans la version Darby, et il est dit, et dont l'Éternel est la confiance. Oui, c'est encore mieux. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre version. Mais dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Vous ne trouvez pas beau cette expression ? Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Vous savez, c'est des années, depuis 2008, depuis quand même la crise économique, il faut dire que ça fait 6 ans de difficultés dans lesquelles le monde se trouve. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, tant mieux. Ça prouve que vous êtes béni. C'est une grâce, ça. Si vous n'êtes pas conscient de ce que je viens de vous dire, mais c'est presque bien. Ça prouve que Dieu vous a épargné. et que c'est une grande bénédiction. Vous comprenez, si matériellement, vous n'êtes pas affecté par cette affaire, parce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui gagnent le SMIC, ils dorment dans leur voiture avec leur gosse. Mais vous le savez, ça. Et si vous n'êtes pas affecté, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu, mais cette grâce, elle peut grandir. C'est un principe biblique. Il vous sera fait grâce sur grâce. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est un principe biblique. La grâce de Dieu, vous l'avez ce soir, mais croyez-moi que si vous vivez dans la grâce, il vous sera fait grâce sur grâce. Et quelqu'un qui se confie en Dieu, il n'a pas de crainte. Dieu le connaît. Et Dieu le voit. Et Dieu pourvoira. C'est une loi. C'est une loi merveilleuse. C'est la loi de la foi. Et la loi de la foi, c'est la loi de la confiance. Vous savez, une fois à Tahiti, parce qu'à Tahiti, j'ai vécu 3 années difficiles, et je me rappelle, j'étais toujours à genoux, en train de pleurer, en train de prier, et je lisais combat, le bon combat de la foi. Et moi, j'étais là, à genoux, en train de rouméguer, vous savez comment on est. Ça, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Et j'étais là, le bon combat de la foi, le bon combat de la foi, tu parles, le bon combat de la foi. J'étais là, vous savez, quand on réfléchit, ça vous arrive de réfléchir à l'intérieur du dedans? Et je réfléchissais, le bon combat de la foi, le bon combat de la foi, tu parles, j'étais là, pour moi, ce n'est pas un bon combat. Et le Seigneur a fait son chemin. C'est clair que quand ce n'est pas le combat de la confiance, c'est clair que ce n'est pas un bon combat. Mais si on met à la place du mot foi le mot confiance, est-ce que c'est juste bibliquement, à la place de mettre le mot foi, de mettre le mot confiance? Oui, c'est biblique. Mais vous croyez que si on mettait le mot combat, le bon combat de la confiance, à partir de ce moment-là, n'importe quel combat doit devenir un bon combat. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous soyons sérieux avec les commandements de Dieu. Si l'apôtre dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est qu'ils ne sont pas pénibles. C'est nous qui sommes pénibles. Avec nos réflexions, et avec nos remarques, et avec nos oui, mais. Avec nos oui, d'accord, mais tu n'es pas à ma place, si tu étais à ma place, voilà. Mais ce n'est pas la peine que vous disiez ça. Je vous dis que ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas Gérard Gros, ou un pasteur des assemblées de Dieu, ou les assemblées de Dieu, ou l'église évangélique, ou ce que vous voudrez. C'est Dieu qui a dit, il est maudit, l'homme qui ne se confie pas en Dieu. Et l'homme qui se confie en Dieu, il est béni. Et quand la sécheresse viendra, et croyez-moi, le sec, il va venir de plus en plus, eh bien, vous n'aurez rien à craindre, parce que Dieu a promis qu'il prendrait soin du lendemain. Alors, si Dieu prend soin même des méchants, c'est écrit que Dieu fait briller son soleil sur les méchants et sur les justes, que Dieu... C'est écrit ou c'est pas écrit? Alors, je ne sais pas vous, et si vous preniez soin de des gens que vous ne connaissez même pas, à combien plus forte raison prendriez-vous soin de vos enfants? Oui ou non? Et Dieu dit, voilà, il le dit, le lendemain aura soin de lui-même. Voilà, si vous le croyez, eh bien vous n'aurez jamais de crainte. Et pour que ces choses soient gravées dans votre cœur, c'est une alliance. C'est Paul qui a fait Paul, c'est dans l'Épître aux Hébreux qui dit, mais voici l'alliance que je ferai avec vous, je graverai ma loi dans votre cœur. Je graverai, vous savez, c'est une chose d'écrire sur un tableau à la craie, et c'est une chose... que de le graver dans le marbre. Et les paroles de Dieu, est-ce qu'elles sont écrites à la craie? Vous avez vu à la craie, il fait 3 gouttes et c'est fini. Quand c'est gravé dans le marbre, c'est irrémédiable. Ça restera toujours. Et nous devrions être sérieux et dire, moi, Seigneur, ces promesses, je veux qu'elles soient gravées dans mon cœur. C'est sûr que si vous lisez la Bible une fois tous les 3 mois, c'est clair que ça sera écrit à la craie. Mais laissez-moi vous dire que si vous méditez ce verset, que le lendemain aura soin de lui-même, il va être là dans votre cœur et dans chaque situation, le Saint-Esprit vous le rappellera. Mon enfant, le lendemain aura soin de lui-même. Celui qui met en Jésus une pleine confiance ne chancelle pas. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que chaque chrétien, il ait une pleine confiance. Voilà ce que Dieu veut. Il ne veut pas que, peut-être que ça vous intéresse. Moi, dimanche, j'ai à cœur une étude là sur le comportement, la façon dont Jésus s'est approché de la femme samaritaine, comment il a abordé la femme adultère. Ça me travaille. Je pense qu'on abordera ça dessus. Mais apprendre des choses nouvelles, c'est très, très, très intéressant. Franchement, on voit la pédagogie de Jésus avec ses femmes pécheresses, comment il les a amenées à la bénédiction. Et je veux croire que Dieu peut nous amener à comprendre des choses pour nous amener à aider les pécheurs. Mais mes frères et sœurs, il n'y a rien qui remplace une foi vivante, une foi pleine de confiance. Dieu connaît. Et quand Dieu regarde quelqu'un, parce que Dieu, il vous regarde, oui ou non? Est-ce que Dieu vous voit? Et on ne, je ne pense pas qu'on calcule... que l'on peut, qui peut mettre sa joie en nous lorsqu'il nous voit plein de confiance. Voilà, ça pète partout, tout autour de nous ça craque, mais moi je fais confiance à Dieu. Et Dieu pourvoira. Vous entendez ? Dieu pourvoira. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Si vous ne le croyez pas, je ne veux pas vous faire de la peine, je vous le dis mal, c'est sûr, mais si vous ne faites pas confiance à Dieu, si vous ne croyez pas qu'il pourvoira, c'est que vous ne le connaissez pas. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Vous voulez le connaître, le Seigneur ? Eh bien, ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ce que Dieu dit, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Il l'a dit, le ciel, je le répète, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Qui le croit vraiment? Vous le croyez? Ben si vous le croyez, vous serez heureux, vous serez béni. Il y a quelqu'un qui va être béni? Ah, de suite, là, je me doute que tout le monde va lever la main. Est-ce que vous voulez être béni? En tous les cas, Dieu veut vous bénir. Parce que s'il est mort sur la croix, c'est pour nous bénir. S'il a dit, je suis au milieu de vous, dès que deux ou trois sont au milieu de vous, sont assemblés, je suis au milieu de vous, pourquoi il a dit ça? Mais c'est pour nous bénir. Enfin, moi, je me doute que si le Seigneur, il est là, c'est pour nous bénir. Oui ou non? Même s'il doit nous interpeller. Alors, j'aimerais qu'on termine en priant. Mais vraiment en priant avec confiance. Il entend nos prières. Il entend tout. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi, Seigneur, je veux, dans les semaines qui suivent, pouvoir moi aussi dire, je suis plein de confiance. Vous vous rendez compte, comme je le disais tout à l'heure, les gens, ils ont confiance à un pasteur, ils ont confiance à un ami. Et c'est bien, c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais quand on en arrive à faire confiance plus à un homme qu'à Dieu, moi je trouve que ça craint. Et s'il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, je te fais confiance. Oui, tu es Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Peut-être que quelqu'un est malade ce soir. Mais vous croyez que Dieu peut vous guérir maintenant? Vous croyez qu'il a le pouvoir de vous guérir? Vous croyez que si vous êtes au chômage, demain il peut incliner le cœur d'un patron? Mais vous croyez que Dieu peut faire ça? Le lendemain aura soin de lui-même. C'est pas vous qui le ferez, c'est lui qui le fera. Qui pourrait se lever et dire non, je ne le crois pas? Ben, si vous en êtes là, ça va mal, hein? Mais peut-être que c'est l'inverse que vous pouvez faire. C'est discrètement vous lever à votre place et faire un acte de foi et dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui me guérit. Je crois que tu es celui qui m'aide à honorer ma femme afin que rien ne vienne faire obstacle à mes prières ou mon mari. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait faire une expérience avec Dieu alors qu'on est recueilli, quelqu'un qui est là et qui réalise que le Seigneur est au milieu de nous. Vous ne le réalisez pas parce que vous le sentez, vous le réalisez parce qu'il l'a dit. Et s'il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'ai besoin d'une victoire. On a chanté, triomphé, toujours plus que vainqueur, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais moi je ne veux pas que ce soit des cantiques justes. Oui, Dieu connaît ce qui se confie en lui. Alors, je vais prier pour celui ou celle qui va se lever. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un acte de foi. Vous savez, Dieu aime cela. Alors, je ne dis pas ça pour que vous vous leviez, mais je voudrais que vous réalisiez qu'à des moments, on doit faire certaines expériences. Ce sont ces expériences qui nous amènent à vraiment à vivre cette fidélité de Dieu. Alors si quelqu'un veut se lever, levez-vous. Peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pour quelqu'un. Comme cette femme, vous savez, syrophénicienne, qui a dit « pitié de moi » alors que c'était sa fille qui était malade. Elle était tellement mal qu'elle s'est identifiée à la douleur de sa fille. « Et pitié de moi ». Elle n'a pas dit « pitié de ma fille ». Elle a dit « pitié de moi ». Il y a peut-être quelqu'un qui dit « mais moi je crois que tu peux bénir mon conjoint ». Eh bien on va prier ensemble. Parce qu'on est une église. On est des frères, on est des sœurs. Et on prie les uns pour les autres. Et déjà, plusieurs personnes se sont levées. Eh bien, vous qui restez assis, eh bien, priez pour les gens qui se sont levés. Faites-vous ce plaisir de dire, mais moi, je veux prier pour ceux qui se lèvent. Vous savez, ça plaît à Dieu, ça, quand on prie les uns pour les autres. Et attendez-vous au Seigneur. Il est ce qu'il dit qu'il est. Et s'il a dit qu'il combattait pour vous, il combattra pour vous. À condition que vous lui fassiez confiance. Prions pour ceux qui se sont levés. Et je voudrais que ceux qui sont restés assis, mais vraiment vous disiez amen, vous priez avec moi. Parce que ceux qui se sont levés, est-ce qu'ils ont droit à la bénédiction? Oui. Et attendez-vous au Seigneur. Notre Père, tu as institué la prière pour nous bénir. Quand je pense que n'importe où, dans notre cœur, même sans prononcer une parole, dès que l'on pense à toi, tu as le pouvoir de nous exaucer. Fallait-il que tu nous aimes pour nous rappeler en boucle dans ta parole ces choses, pour nous dire que le lendemain aurait soin de lui-même, vraiment Seigneur, fallait-il que tu nous aimes. Et nous ne voulons pas terminer cette soirée juste en disant amen. Nous voulons expérimenter ta vie, ton amour, ta provision, ta guérison, ton secours. Oui, Seigneur, tu es toutes ces choses. Ce soir, tu vois mes amis, mes frères et sœurs qui se sont levés. Tu vois celui qui veut mettre sa vie en règle. Tu vois celui qui a besoin d'une guérison. Celui qui a besoin d'expérimenter. Oui, qu'on peut te faire confiance. Que ses yeux soient fixés sur toi. Oui, merci Seigneur pour la croix, car c'est bien grâce au calvaire qu'encore nous pouvons terminer cette réunion en nous attendant à toi. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes amis, et merci de nous amener à vivre ce dernier cantique, que par la foi, nous serons toujours plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen.